Bonjour.
Bonjour.
Entrez.
Merci.
Merci. Ça va. Enchantée.
Bonjour.
Bonjour. Ah, on s'est déjà
vu. Oui, hein. On s'est vu. Hein.
Bon, vous écoutez la musique sicilienne.
Mais vous voyez, moi, je ne me souviens plus si on a fait grève quand on a démantelé là, cette usine. Je ne me rappelle pas de ça. J'ai lu plusieurs fois. Je suis arrivée à la date, donc c'est en 1984. Et il part d'un mouvement, mais c'était contre le gouvernement en ce moment-là, c'était libéral. C'était Martens, oui. Et on ne parle pas de Valfil. C'est quand même étonnant, hein? Est-ce qu'il y a eu un combat, Valfil? Oui, et bien on n'en parle pas.
Et à votre avis, pourquoi est-ce que...
Oh, je ne sais pas.
Dans vos souvenirs, que le fait que vous ne vous souvenez pas qu'il
ça
y a eu
pose question.
Oui, ça vous pose question.
Oui, ça me pose question. Mais je me souviens d'images du démantèlement, quoi.
C'est quoi les images du démantèlement que vous vous souvenez?
Que les Chinois étaient là, ils surveillaient. Hein.
De Serein à Pékin, un documentaire de Marc Monaco et Sarah Fautré.
La ville de Serein est accrochée à un fleuve qui lui a tout donné, puis tout repris. Il y a à peine 2 siècles, Serein était un hameau au milieu d'une vallée boisée. Le fleuve, le sol y ont attiré des hommes et des femmes venus d'un peu partout pour en extraire le charbon et fabriquer de l'acier, des locomotives et des bateaux. Petit à petit, la vallée boisée est devenue une ville industrielle prospère. Dans les années 80, cela déclate. Le fleuve s'est mué en vague.
Oh, c'est une très belle vue ici. Oh, magnifique, t'as une vue sur la vallée de la Meuse. Hein.
En quête d'informations sur une mémoire de la crise des années 80, nous rencontrons Armando, qui, hasard de la vie, était un ancien camarade de classe de Marc.
Ah, tu as le fourneau B, là, de...
C'est celui-là qu'on a là en face, c'est ça?
Celui qui va redémarrer prochainement.
Alors là, donc ça c'était le haut fourneau, puis qu'est-ce qu'on voit là en noir? Tu as évoqué, c'est quoi? C'est la coquerie, qu'est-ce
la
qu'on
batterie de la four à coque, donc on épure tout, on apporte le charbon et on débarrasse du soufre. Bon, c'est vrai que ça... De toute façon, ça aurait pu mauvais, les vapeurs de soufre et l'oxyde de soufre. Mais bon, on dira tout ce qu'on veut. Mais ça fait vivre quand même des gens.
Et alors, on voit des trous. Tu vois, entre la coquerie et là, c'est quoi qui est sous ces trous-là qui avait...
Ben, l'ancienne aciérie Aldé. Ben, c'était une grande aciérie où... C'était une petite ville dans la ville à Serein, à l'époque. Hein. Ben, je me souviens, mes souvenirs sont vagues, puisque dans les années 80, je n'avais qu'une douzaine d'années quand on a annoncé la fermeture de la Serie LD.
Étienne d'Avignon, alors commissaire européen au marché intérieur, pointe la surproduction de l'industrie comme le mal à enrayer pour sortir de la crise économique. Au même moment, Jean Gandois, nommé par le gouvernement Martensgol, élabore un plan pour la sidérurgie wallonne. À Seraing, c'est l'aciérie, le blooming et le train à fil Valfil qui sont condamnés. Depuis lors, les crises se succèdent.
Et toi, t'as connu quand c'était ouvert? T'as connu le haut fourneau B quand il était en fonction?
Bah oui, bien sûr. Mais on l'avait arrêté pour la crise en 2008. On a arrêté la production parce qu'il y avait moins de demande d'acier dans le monde. Maintenant, on prépare à la relance.
Et quand il est en fonction, ça a un bruit continu
Ouais, ça a un bruit, des bruits caractéristiques. Hein, mais bon, il faut attendre que ça redémarre. Mais il y a les bruits caractéristiques ici, c'est les va-et-vient, entrée-sortie des ouvriers, des sous-traitants, des visiteurs. Voilà.
On n'entend plus le haut fourneau. Hein. Qui a fait le bruit? C'est mieux quoi, le petit haut fourneau ou ça, les oiseaux?
Ça dépend qui est-ce qui aime bien le chant des oiseaux et qui est-ce qui aime bien le chant des usines. Donc, c'est un choix, je vais dire, personnel. Mais en tant que... J'aime aussi bien le chant des oiseaux que le chant de l'usine.
Habité ici?
Non, pas toujours, hein. C'est pas le plus.
Vous avez connu l'usine ici?
Ouais.
Elle veut
habiter toujours ici.
Ouais.
Oui, ça va bien.
Allez, on va lui demander.
Marc, viens parce que tu parles bien français.
Alors nous, en fait, on fait un reportage, en fait, je sais pas s'il a expliqué, sur les Chinois qui sont venus travailler ici.
À Valfil?
Il y a déjà combien d'années, ça?
25.
Il y a déjà 25 ans.
Bah, c'était 83-84.
Oui, c'était dans ces années-là.
Ouais.
Oh, ça passe.
Non, ils sont venus travailler et ils logeaient dans l'usine. Moi, j'ai vu des montées, hein. Il n'y avait plus un pavé. C'est quand même abominable. Mais s'ils étaient fort exploités, fort. Moi, je trouve que les faire vivre dans des conditions là, comme ça, parce que dans les derniers moments, ils n'avaient plus de courant ni rien dans les dortoirs. Je trouve que c'est vraiment...
Ils se promenaient ici dans la rue Ferrière, ils dormaient là-bas. Hein?
Tout serait, ils ont visité...
Vous souvenez bien, ça?
Oui, je suis... Bon, du coup, je crois qu'il y a encore des photos de ça. Il y a un ami qui avait pris des photos où on voyait tous les Chinois là.
Vous avez des archives?
Mais question d'archives, ça j'en ai pas mal, que j'ai pu sauver. Parce que ici... Ils ont jeté des bâtiments, tout, allez, ça partait dans les... C'est incroyable. Ici, ils en ont jeté, mais des dossiers, tout ça, puis je regarde. Je dis, on ne va pas jeter ça. Il faut quand même un peu savoir son histoire et tout.
Intitulé « Site de Valfil reconverti originaux épiscopie ». Et là, on peut voir notamment un plan des rives de la Meuse, des quais, avec des annotations manuscrites. Nous sommes chargés de la gestion des archives communales et la ville de Serres. Donc ici, il y a eu des dossiers dans le cadre de la reconversion de Valfil. Donc c'est pour ça que ces deux boîtes existent. En ce qui concerne les Chinois, donc ces personnes sont venues travailler sur le territoire de la ville de Serres. Ils ont probablement eu des contacts administratifs avec la ville de Serres, mais ça n'a pas laissé de grandes traces au niveau domiciliation et autres, puisque ces personnes n'étaient là que pour une durée limitée en temps.
Oui, bah, on est assez étonné parce qu'en fait, ils sont restés quand même plus d'un an ici sur le territoire serésien et vous avez cherché, vous ne trouvez pas de traces. Ils n'ont pas été inscrits, ils ne devaient pas être enregistrés comme résidents, avoir des papiers ou des choses
en comme principe, ça. En principe, de par la loi, chaque producteur d'archives est responsable de ses archives. Donc, en théorie, puisque c'était une propriété de l'usine Coqueril, on devrait retrouver théoriquement certains documents dans les locaux de l'usine Coqueril.
J'ai écrit pour les archives et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient rien. Ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette histoire et qu'ils n'avaient rien, il n'y avait personne qui pouvait nous indiquer. Quoi.
Nous retrouvons Jean Brouillère, Jacques Van Est et Guy Dehalu, ingénieurs à l'époque pour Coqueril-Sambre, dans le restaurant La China, situé à proximité des lieux encore hantés par les événements.
Donc est-ce que vous voulez boire quelque chose avant de commander à manger ?
Qu'est-ce qu'on boit ? On va pas boire un saké, non ?
Un porto.
Ils ont du vin,
qu'on prenne du vin.
Une espèce de vin de litchi.
Ah ben, tu connais la
maison. Un pinot, moi je préfère pinot. Un pinot que des sables, que les douceurs.
Jean Gandoin est nommé par le gouvernement belge pour mettre de l'ordre dans les restructurations des outils sidérurgiques belges. Mmh. Et là nous avons une place, puisque nous sommes Coqueril-Sambre. Et ça me paraît important de faire comprendre à nos interlocuteurs, mais je vais peut-être me tromper, mais je me lance dans l'eau. D'Avignon dit ceci, il faut diminuer les capacités. Et si vous diminuez les capacités de production de vos sociétés, moi, d'Avignon, avec la Commission et l'Europe, nous vous donnons un accord de principe. Il s'adresse à tous les pays européens. Moi, d'Avignon et l'Europe, nous donnons l'autorisation à chacun des États concernés par les outils sidérurgiques d'octroyer un subside qui permettrait de moderniser la sidérurgie en vue d'avoir un meilleur prix de revient, une meilleure qualité, etc. Chaque fois qu'un sidérurgiste abandonne 1 million de tonnes, il peut revendiquer un don de l'État de 10 milliards de francs belges. Oui. C'est quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être d'un milliard ou deux.
Non.
À tel enseigne que Coqueril-Sambre a reçu un pactole énorme.
C'était ça. Je pense que vous avez très bien expliqué.
Et ça, pour moi, c'est un grand point fort du plan Gandoin. Et Dieu sait si je suis bien placé, puisqu'il m'a supprimé Valfil. Hein, c'est Gandoin qui a dit, on arrête Valfil. Ça fait une capacité d'1,2 million, ça fait autant de milliards, et avec ce milliard-là, je vais pouvoir moderniser la sidérurgie à plat. Gandoin et tout son monde, hein, moi je ne suis pas, a eu l'opportunité de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et remettre de l'ordre dans la stratégie commerciale des produits en vue du futur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours debout ici à Coqueril-Liège. Hein,
oui, oui.
Hein
oui.
La première fois que vous êtes venu, on n'était pas très d'accord parce que vous avez dit c'est à partir de Valfil que tout s'est déglingué. C'est pas vrai. C'est à partir de la fermeture des charbonnages. Et ils ont déjà fermé à Sclessin, par exemple, puisque j'habite à Sclessin, on en a fermé 4 en 49, déjà. Donc, ce qui a intéressé, enfin, moi, je ne suis pas une politique, hein, mais ce qui a intéressé, je suppose, Coquerel et le reste, parce qu'il y en a eu d'autres, bah, c'est le charbon au départ et le fleuve.
Marcel Gaillet et Claude Schmitt ont également vécu ces événements. Ils étaient ouvriers et délégués syndicaux au Blooming et à Valfil. Nous les invitons dans le même restaurant une semaine après avoir rencontré les trois ingénieurs.
Okay. Non mais peut-être avant d'arriver au moment de grève, c'est pourquoi il y a grève, voilà,
c'est
ça.
C'est nous d'abord, c'est Valfil, hein,
Valfil qui démarre.
C'est Valfil qui démarre. Quand on nous annonce les dates, je ne peux plus vous les dire, mais quand on nous annonce que Valfil est fermé lors d'un conseil d'entreprise, ben, nous nous réunissons en délégation syndicale Valfil, puisque nous étions indépendants, et nous décidons que nous ne pouvons pas accepter cette décision et nous partons en grève. Au finish, nous annonçons grève au finish, avec occupation d'usine. Le Blooming 3 ben, décide de nous suivre.
Ben, on est parti en grève pour des raisons de solidarité. Hein? Ben, c'est des camarades qui ont fait des brilles en ligne, mais des camarades avec lesquels nous étions constamment en liaison. Hein? Ça veut dire que nous savions bien pourquoi on se battait et comment on se battait. Par pure solidarité, et notre outil était lié, puisqu'en arrêtant Valfil automatiquement, quand on veut dire, nous n'avons plus aucune possibilité.
Donc il y a l'occupation des usines pendant 3 mois et demi. Alors oui. Vous faites les pauses aussi
on
dans
fait
le.
Les
dans...
pauses, il y a des équipes de jour, de nuit.
On dort, on
reçoit les gens, on reçoit tout qui a voulu montrer sa solidarité envers nous. On a reçu tous les bourgmestres, toutes les CPS, tout le monde. On a reçu toute la province, même des délégations flamandes. Nous avons reçu des délégations de Govens, même d'Angleterre.
C'était la grève des mineurs.
Oui, nous avons reçu beaucoup de gens. Mais
il y a
Marcel,
des Anglais qui sont venus.
Oui, Marcel.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là?
Mais ils étaient en grève, hein, côte Tachir. Ouais. On fermait aussi hein, les mines et tout ça. Et nous avons reçu une membre du comité des femmes, des épouses de mineurs, qui étaient dans la lutte parce qu'ils savaient se battre aussi. Hein. On avait très peu d'informations, mais c'était pas encore plus dur pour eux parce qu'on fermait dans les bassins, milliers, un peu partout. Hein. Malgré tout, ils étaient venus apporter leur solidarité, nous expliquer pourquoi ils se battaient, de quelle manière, à quel gouvernement ils avaient affaire. Ça, c'était touché, on fermait partout. Hein.
Et au moment de la grève, vous savez déjà que les usines sont revendues à un groupe sidérurgique chinois ou pas ?
Ben on en parle, oui. On en parle, on cherche, et le Coquerel cherche des gens pour reprendre, et on sait ce vers où on se dirige. Oui, oui, on sait que on va vers la Chine. J'entends même un jour, je reparle de l'entente, mais une discussion avec le directeur et des Chinois qui se plaignent parce qu'ils ont fait des accords, mais ne signent pas. Les Chinois sont très, 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 très lents. Voilà. Quand on décide la fermeture, on travaille encore presque un an, à peu près un an, oui.
La fermeture est appliquée et arrivent les Chinois. Combien de temps après arrivent-ils
Ah ben on arrête, ils sont déjà là avant. Ils sont déjà avant, ils suivent le laminage, ils suivent un petit moment les dépannages. Ils ne travaillent pas, ils regardent. Ils prennent des notes. Oui, ils assistent.
Vous avez travaillé avec eux
enfin, non, on n'a pas travaillé, ensemble, ils assistent, ils regardent. Il y a deux interprètes, il y a beaucoup d'ingénieurs et ils sont logés dans des bâtiments de Coquerel, des bâtiments... Moi, j'appellerais ça des étables. Ils vivent un peu... c'est la bohème, hein, pour moi. Hein, mais c'est pas mon problème. C'est le leur.
Et à ce moment-là, donc, ils vont commencer à regarder. Puis,
ils regardent, oui.
Et puis, ils vont commencer à démonter.
Ouais. Ils vont commencer à démonter tout le laminoir. Eux-mêmes, parce que là, ils ont leurs pontiers, ils ont tout avec eux. Ils ont des électriciens, ils ont des mécaniciens, ils ont de tout. Il y a une chose qui est marrante, c'est qu'ils sont très lents. C'est marrant de les voir travailler, mais je n'ai jamais vu aucun Chinois courir. Hein. Aucun. Hein. Mais enfin, ils font leur boulot, ce n'est pas mon problème, mais ils démontent, ils démontent, ils démontent. Et ils mettent dans les caisses. Ils mettent tout. Tout ce qu'ils trouvent comme matière, parce que tout morceau de métal, c'est de l'or pour eux. Hein. C'est pris en charge par des camions. Ils vont jusqu'en Anvers. Et là, alors, c'est un bateau chinois qui charge et qui prend tout.
Alors, ben, je ne sais pas, vous avez choisi
Oui, moi.
Qu'est-ce que tu prends, Marcel?
Moi, sauter de port à l'Aigredou.
Non, l'Aigredou, non.
Pas d'entrée, alors
Non.
Okay. Vous n'avez pas
un peu de potage ou
quelque chose?
Non, potage,
non,
bien
gentil, merci. Ah, scampi, sauté aux légumes et champignons chinois. C'est bon les champignons chinois?
Oui, c'est bon.
Ouais.
Ça va?
Ouais, ça va, ça, ok. Ça, ouais.
Vous voulez boire du vin?
Non,
vous préférez...
pas spécialement. Hein.
Non?
Je resterai à la bière.
Une bière.
Ok, ça va.
Le fleuve creuse les vallées, inonde les terres et charrie le limon jusqu'au delta. Des hommes se sont imaginés maîtriser sa force. Ils ont tragué la vase, raclé le sable et le gravier. Chaque geste a laissé une trace. Même si l'on dit que le fleuve emporte tout, même si l'on dit que le souvenir est défaillant, homme et fleuve dessine un sillage que le sol garde bien en mémoire.
Et vous voyez, ici en face, il y a un bâtiment qui est la SPE.
Oui.
Donc, avant, il y avait une usine qui s'appelait Valfil.
Mais nous, enfin...
Ça donc, ne vous dit rien, vous ne connaissez
non,
pas
je
ça.
Ne connais pas, mais en fait, à l'ASPEC, on a plusieurs départements. Donc, avant de pour choisir un site et pour le dépolluer, tout se base d'abord sur des études historiques.
Choisissez voilà. En fonction.
Donc les historiens choisissent en fonction des différentes affectations de l'époque et de la lourdeur de l'industrie, les sites potentiellement pollués. Donc il y a toute une liste et eux, les historiens, connaissent un peu toute l'histoire des anciennes friches industrielles.
Mais c'est ça, vous nous avez donné des masques.
Oui.
Et en fait,
La raison, c'est qu'on travaille avec des terres polluées ouais. Et que donc il y a un réel risque pour la santé, pour les gens qui sont juste à côté des excavations.
Il y a des émanations de gaz.
Oui, de pollution, ça. Oui.
Il y a des métaux lourds.
Il y a des solvants. Donc au niveau métaux lourds, on a du cadmium, du plomb, du zinc, du cuivre. Et alors pour tout ce qui est solvant, ben, c'est les fameux hydrocarbures aromatiques. Polycyclique ou monocyclique, donc c'est benzène, naphtalène, etc. qui sont des solvants, quoi. Voilà. Et qui sont issus typiquement de l'activité de l'ancienne coquille. Il y a quelques années, on a fait le site du Bois Saint-Jean ici à Liège. Et il y avait un endroit où on avait regroupé l'entièreté des terres sinueuses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques arbres qui poussaient autour de ces terres, jamais dedans. Et on s'est rendu compte que les troncs étaient bleus. Donc on se demandait un peu pourquoi. Et en fait, c'est les sangliers qui se roulaient dans les terres sinueuses. Donc les terres sont bleues, mais d'un bleu, c'est bleu roi, quoi. Ça ne peut pas manquer. Elles ont une odeur d'amande. Et comme cyanure, c'est quand même pas super bon, ça les piquait. Et alors, ils se grattaient sur les troncs d'arbres.
Le repas suit son cours en compagnie des ingénieurs.
Vous avez tout?
Il y a
deux crèmes.
Non, parce que monsieur prend de potasse aussi, prend de l'entrée aussi.
Non.
J'avais cru comprendre qu'on prenait potage, entrée et plat.
Ah, d'accord.
Donc, je supprime l'entrée et je prends potage.
Oh, ok. Maintenant, c'est pas de croquettes.
Voilà.
Ok, ça va, merci.
Alors, donc j'étais allé en Chine en décembre 84 pour leur exposer la disposition de la série, leur expliquer le fonctionnement, et c'était alors... le chef de la série qui dirigeait une délégation. Pendant 3 jours, j'ai expliqué la disposition de la série et son fonctionnement. Puis alors, nous sommes En revenu, l'affaire s'est conclue en janvier-février. Et c'est alors, d'après ce que j'ai fait comme relevé, les mois suivants furent consacrés à la mise en œuvre du déménagement. Donc deux techniciens vers la mi-juin pour un mois préparer l'avenue de 300 ouvriers chinois. Ils débarquèrent en septembre et furent hébergés dans les locaux de l'ancienne aciérie Thomas.
Donc transformé en réfectoire.
En dortoir et en cuisine, parce qu'il faisait la cuisine aussi, en salle à manger.
Oui, et on parle de ça.
Et donc, vous, monsieur Brouillère, vous avez accueilli les
J'ai accueilli deux vagues de Chinois. La première vague, c'était des chefs observateurs qui venaient voir comment fonctionnait Valfil. Nous sommes toujours pendant la période de production. Le contrat n'est pas encore définitif, mais les choses avancent. Et je crois pendant 15 jours, si je me souviens bien, une douzaine de jeunes cadres, des cadres lamineurs, ou considérés comme étant aptes à recevoir une formation, viennent chez nous. Grand mouvement syndical, vous imaginez, qu'est-ce que c'est que ces Chinois-là? Et on m'avait bien chauffé pour que je puisse, moi aussi, chauffer la délégation syndicale, parce qu'on allait devoir apprendre notre métier à des Chinois. C'était quand même quelque chose de assez compliqué. Mais enfin, ça a été admis. La deuxième vague, c'est quand le contrat a été signé et qu'il a fallu aborder le démontage. À ce moment-là, nous n'en avions pas 300 pour démonter. Je ne sais pas combien, ils étaient, à mon avis...
45.
Oui, 45. Alors, quelle mémoire, monsieur Van Est. Ils étaient 45, qu'on a logés ici, au Quai Sadoan. Et puis, une partie chez nous, parce qu'ils voulaient, étant futurs propriétaires, et on sentait bien, le contrat venait d'être signé, il fallait véritablement qu'ils mettent la griffe, l'impact, la main... in situ, pour être sûr que rien n'échappe. Ah oui, petite histoire, à ce moment-là, il y a une certaine panique chez nous. Tiens, les Chinois vont prendre tout. Hein. On savait qu'ils allaient tout prendre, y compris tous les vitrages de l'usine, y compris nos téléphones, nos bureaux, nos palmaires, nos pieds à coulisses, notre outillage, tout. Tout était complet. C'était le Valfil complet. Petite histoire, je me dis, non, cher, moi, je ne vais quand même pas laisser passer mon bureau, ma table de bureau, qui n'avait que 2-3 ans, que j'adorais. C'était le grand format qu'on pouvait accepter quand on était directeur d'une filiale. Et je me suis arrangé, vous passez détail, pour l'emporter pendant la nuit, avec une équipe de Valfil, et le remplacer par un petit. Et je vois encore les 2-3 Chinois, chef de la délégation, dont une interprète, très étonné de voir que mon bureau avait rétréci. Et j'ai fait semblant de ne pas comprendre. En fait, je comprenais très bien, mais c'est exactement le même, c'est vous qui vous trompez, etc. Alors que j'avais complètement changé et j'avais pris un petit bureau d'employé qui est d'ailleurs parti en Chine.
Un jour, Marc découvre qu'un ouvrier a filmé ses usines, désormais disparues. Après quelques recherches, il arrive à le contacter. Sur les hauteurs de Sorin, Constant Jamard nous accueille chez lui.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez. Merci. Allez-y.
Allez, viens,
c'est
vous,
je vais.
Papa,
vous
êtes
papa?
Oui, tranquille, là. C'est bien gentil,
monsieur Jamard. Donc j'étais pompier. Comme on dit souvent, j'étais aviateur industriel. Comme on dit pour les femmes maintenant, c'est des techniciennes de surface. Donc nous, on était des aviateurs industriels.
Vous étiez toujours en train de voir ce qui se passait.
Oui, on était surélevé évidemment. Voilà. Hein, on était surélevé, on voyait très bien. Mais ouais. C'est vrai que.
Et c'est ce point de vue-là qui vous a fait de voir tout ça, qui vous a donné envie de filmer ce que vous voyez.
Mais écoutez, au départ, j'avais un oncle qui faisait de la caméra Super 8. Et il m'a un petit peu initié au niveau caméra, faire de la caméra. Et j'ai dit, tiens, je vais un peu filmer, comme on parlait déjà de fermeture depuis bien longtemps. Je vais un peu filmer l'outil, car l'outil va disparaître, c'est fini, on n'aura plus de souvenirs. Et c'est le pourquoi j'ai filmé, pour avoir un souvenir de l'outil qu'on avait à Saouré. Et j'ai filmé, donc, si vous avez vu le film, le Houfourneau, la série LD, le four à coque et Valfil. Valfil qui est parti chez les Chinois, là, hein, et la série LD aussi. Donc, on me disait, c'est comme un autre journaliste me posait la question, pourquoi n'avez-vous pas filmé les camarades? Et j'en profite parce que vous êtes là, je vais le dire ici. Et comme je lui avais répondu, mais c'était l'outil qui me tracassait. Les camarades, on les revoit après. Et là, je crois que j'ai fait une floche, comme on dit. J'aurais dû filmer mes camarades. Fait une erreur.
Par contre, ça c'est vraiment le petit truc, moi j'ai vu votre film.
Oui.
Et je trouvais que c'était extraordinaire parce que par rapport à ce que vous dites,
ouais.
Moi j'allais à l'école des Ciboniers.
Ah d'accord.
Et donc la cour d'école donnait sur la série LD.
Ah, ouais.
Donc moi c'était mon décor.
Ah ouais.
J'ai de revoir ce bâtiment, la couleur du bâtiment et tout ça, ça m'a. X années après, ce truc qui avait disparu, ça m'a fait souvenir. Hein, ça m'a. Je me dis, ah c'est bien que quelqu'un ait filmé ça. Parce
oui.
que c'était impressionnant comme bâtiment. Hein.
Si c'est impressionnant, il faut bien dire que c'est le feu qui nous reste. Il nous faut manger. Donc pour nous, ce n'est pas impressionnant. C'est quelque chose de naturel. Hein. Nous, on n'était pas impressionnés. On allait là, c'était notre travail. Il y avait le feu, mais comme on disait, le feu de l'enfer. Mais le feu de l'enfer, ça nous payait. Et comme on me posait un jour la question, est-ce que le film, tu vas encore le regarder? Et je dis, je ne crois pas. C'est un souvenir, mais je ne crois pas que je vais regarder. C'est tristouné. Quand j'ai vu un ingénieur quand j'étais à Chertal, il m'a montré une photo. En courant après moi, il disait Constant, viens voir. Regarde la série, elle tourne là, en Chine. Elle était toute blanche, était magnifique. Et j'ai dit oui. Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ah.
Bon, les Chinois qui sont venus démonter cette usine, ils ont pris tout.
Tout.
Mais ils n'ont pas pris les délégués syndicaux.
Là, c'est une question, tu te coupes la tête. Là, hein. Mais je crois qu'il n'y a pas de délégués syndicaux là, en Chine. Hein.
Non, justement.
C'est ça.
C'est ça le problème. C'est le problème, c'est pas qu'ils l'ont pris. C'est qu'en plus, là-bas, le problème...
Comment est-ce que sa place, là, elle s'appelle la place, là, qui...
Ça se tient, là.
Et voilà. Allez-y. Allez-y manifester, là. On rappelle la télévision qu'on a mis une petite rose dans le fusil, là. Vous voyez Costa Germain, elle est... sur la place avec une rose.
Ah, ça commence à ressentir l'acier, hein?
Ouais, ça sent beau, les paillettes de fer.
Paillettes de fer, ouais.
Le charbon.
Ça sent bon.
Ouais, moi, je suis un peu immunisé tant qu'avoir grandi autour de tout ça. Quelques mois que je viens plus, on démolit un mur là, à la porte, c'est la porte 11. Enfin, on va voir, c'est écrit dessus sur la porte.
Ça n'arrête pas de changer, quoi.
Il y a toujours des modifications, mais l'entrée restera toujours la porte, c'est la porte 11.
Comment est-ce que vous vivez alors cette année-là? Vous voyez ces gens qui...
Mal, hein. Bon, ils partent avec mes affaires, hein, ces gens-là, hein. Oui, je le vis mal, mais bon, Moi, je vous jure, je ne savais pas ce que c'était de la dépression, mais je rigolais d'une personne qui me parlait de dépression. Moi, à la fin, ben, je parlais mes tartines. Hein. Bon, il a fallu réagir, on m'a bien soutenu chez moi, ma femme, mon fils, ça a été, mais sinon, c'est dur. Hein. Je vous jure, quand vous avez vécu des événements semblables et que vous y croyez, parce que moi, j'y croyais dur comme fer. Moi, je croyais avoir ma pension à Valfil, c'est tout. Ben non, c'est... On change de programme, mais
on
voilà.
Avait tout pour réussir.
On avait tout pour réussir, tout. Alors, ça a été... Parce que c'était nouveau, c'était moderne. On se disait, bon, on entre là, c'est pour 25, 30 ans. Tout le monde. Ouais. C'est pas faire... Ouais. Je comprends quelqu'un, quand on lui dit, c'est fini, on ferme la boîte. Mais moi, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, je suis au chômage, ma vie est finie, c'est grave, hein.
La nuit, on entend encore hein, l'usine. On entend encore des bruits, oui. Oui. Et encore beaucoup de fumée aussi. Le four à coke, par exemple. Oui. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que je vous parle de l'usine. Je n'ai jamais entré à l'usine.
Hein. Vous la connaissez comment, cette usine, alors?
D'entendre parler des gens. Et de lire. Hein. Moi, je lis beaucoup, alors. Mais... y entrer, jamais. C'est comme tout ce que je vous raconte. C'est pour ça que je vous dis que je parle comme une vieille. Parce qu'on n'apprend pas tout ça aux jeunes, hein, à l'école. Ils ne connaissent rien.
Qu'est-ce qu'on apprend pas?
Ils ne connaissent rien d'histoire ouvrière de la région, ni de grève. On n'entend jamais de ça. Ni même leurs parents. Moi, je pense que les enfants qui sont ici, ils sont là. Vous comprenez ce que je veux dire?
Comment est-ce qu'on la caractériserait, cette vie
Mais c'est une culture. C'était la culture ouvrière. Et elle vaut bien une autre. Moi, c'est mon avis. Et alors, question d'art. Il y avait du thé à poids long, il y avait beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fanfares. Mais ça, c'est de la culture aussi. Hein.
Ouais.
C'est pas de la grande musique classique, mais c'est de la culture.
Et bien, elle est enfouie.
Et qui créait un lien social. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, hein, les gens, avant, étaient plus solidaires. Ils avaient aussi, ça formait des groupes. Les ouvriers maintenant, bon, ils se rendent bien compte, d'accord, ils ne sont pas bêtes hein, quand même. Quand vous entendez parler les gens, ils comprennent très bien qu'ils sont couillonnés, comme on dit. Ils comprennent très bien tout ça. Mais tout ça, c'est rentré. Vous voyez? C'est une colère rentrée. Et alors, bon, ça devient une tristesse, quoi.
En Chine, les fleuves ont des noms de couleurs, de sentiments et d'animaux imaginaires. Pour raconter des histoires, les archives ne valent pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le regard qui les construit, la main qui les range, la foi qui les restitue et l'oreille qui les entend. Tous ces gestes forment une archéologie du souvenir et de la mémoire qui s'écoule alors toujours dans le sens du courant.
Non, bon. Est-ce que vous voulez du café?
Ah oui, oui, oui.
Vous avez du déca?
Déca,
oui. Qui veut déca?
Non, un vrai.
Il s'agit de Marchaud.
Un déca,
oui.
Un café.
Qui a été tué.
Je trouve logique la décision d'Avignon, Gandoin et les autres qui ont vendu Valfil. Il y a un seul argument pour avoir vendu correctement Valfil, c'est l'argument de ne pas laisser croupir Valfil tout seul ici dans un désert de vieilles installations qui seraient mortes si on ne les avait pas vendues. Et deux, finalement, ça ne nous a rien coûté de le vendre, puisque le prix de vente a compensé tous les efforts de démontage et de valorisation du produit. Je suis vraiment très triste de ne voir jamais, jamais, aucune information me disant que Valfil fonctionne ou ne fonctionne pas en Chine. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit.
Finalement, M. Bruyère dit qu'il est un peu déçu de ne pas savoir ce qui est arrivé de Valfil. Mais vous, vous savez ce qui est arrivé de la Syrie, elle était.
Oui.
Et donc,
pour nous, c'est une satisfaction.
Une certaine satisfaction.
Mais mes collègues de la Syrie sont moins enthousiastes que moi.
Mais vous, vous êtes satisfait qu'elle revive ailleurs, en Chine.
Moi, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé et ça a marché.
Je ne sais pas croire que ce sont des décisions qui ont été prises à l'emporte-pièce. Ça a été raisonné. On a été poussé dans le dos par des pouvoirs politiques. Et d'un autre côté, je regrette l'arrêt d'une activité à Liège, qui, je crois qu'aujourd'hui, aurait pu être exportée. Aurait pu être exportée.
Avec quel acier ?
Que ?
Avec quel acier ?
Oui, mais évidemment, il fallait que l'acier LDRS, bien sûr.
Ah, bon. Oui. Alors, on raconte l'histoire.
On ne raconte pas une histoire. On espère qu'elle continuera.
Ça m'arrive de rêver de Valfil. Je suis retraité. J'en ai rêvé plus d'une fois.
Quand vous repensez un peu à ces années-là, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous évoque, comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui?
Je l'oublierai jamais. Jamais. Jusqu'au mon dernier jour, j'y penserai. Moi, j'ai vécu avec Valfil comme si je l'avais créé. Pour moi, je l'avais créé, Valfil, c'est tout. Mais chaque fois que je passe, devant Oval, je passe à Valfil. On n'oublie pas ça. Vous savez, moi, je suis quatrième génération Cochrane. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi. Et il y a mon fils qui travaille aussi. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a 5 générations qui ont travaillé à Cochrane. J'espère que mon petit-fils pourra y entrer aussi. Hein. Je l'espère de tout cœur. J'y retournerai maintenant. Si on disait on ouvre Valfil, j'y retourne. Oui, j'y retourne.
Merci, monsieur.
Oui, hein.
Vous seriez, hein.
Également, bien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Merci. Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Merci.
Merci beaucoup, hein. Merci.
C'était De Serein à Pékin, un documentaire de Marc Monaco et Sarah Fautré. Une production de Bruit ASBL. Production déléguée, Milena Trivier. Prise de son, Sarah Fautré et Laszlo Umbreit. Montage, Maxime Coton. Mixage, Laszlo Umbreit. Voix off, Yang Liu et Sarah Fautré. Merci à Janine Dubois, Virginie Lancival de la SPAC, Armando Frasi, Claude Schmitt, Marcel Gaillet, Constant Jamard, Jean Bruyère, Guy Dehalu, Jean Van Est, Philippe Thirion du service des archives de la ville de Serein, au propriétaire du restaurant La China, et à Marc, le voisin du HF6. Merci également aux amis de l'écoute, Gwenaël Bress, Hervé Brindel, David Convent, Stéphanie Danens, Bénédicte Martin, Vincent Matin Walcan, Cécile Michel, Joël Napolillo, Patrick Taliercio, Olivier Taimans, Milena Trivier et Sébastien Van der Borcht. Avec l'aide technique du Centre Vidéo de Bruxelles. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique.